Et avant de commencer, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Merci Seigneur de ta grâce ce matin. Merci d'être avec nous. Merci pour ta présence, pour ton esprit aussi, ton esprit qui habite dans chacun de tes enfants. Là, on veut t'inviter, Seigneur, et te laisser toute la place. C'est peut-être, tu sais les choses qui peuvent peut-être en ce moment troubler nos cœurs, qui peuvent toutes sortes de préoccupations, de pensées. Et on veut les remettre à toi ce matin, te demander d'ouvrir les yeux de notre cœur, de te laisser toute la place et de nous ouvrir les yeux et aussi les oreilles de nos cœurs avec la parole que tu veux nous dire ce matin. Car rends-nous sensibles à toi, on dépend de toi entièrement. Et merci de nous réunir ce matin comme ça pour qu'on puisse te célébrer. On veut célébrer ce matin ce que tu fais dans nos vies. Et c'est dans nos précieux de ton Fils qu'on te prie. Et grâce à lui aussi. Amen. Alors, pour ceux qui, peut-être qui n'étaient pas venus les dernières semaines, on a eu les trois dernières semaines des messages sur la vraie nature de Dieu, son cœur doux et humble. Et donc, Benoît a commencé en parlant que c'est seul Jésus peut guérir les cœurs brisés. En parlant de l'histoire avec la femme samaritaine, où est-ce que Jésus est venu rencontrer et guérir son cœur blessé. Et avec Jocelyn aussi, que seul Jésus peut pardonner nos péchés, parce que, en fait, c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pardon qui est accessible grâce à Jésus. Et donc, c'est pourquoi que là, la semaine passée aussi, en lien avec Yvan, que c'est pourquoi c'est seul lui aussi qui peut nous libérer de notre passé, parce que c'est le seul qui peut nous pardonner. Et ce matin, moi, j'aimerais ce matin continuer avec « Seul Jésus peut nous délivrer. Seul Jésus peut nous délivrer de nos soucis et éclairer notre chemin parce qu'il a un cœur juste. Il a un cœur aussi rayonnant de grâce envers chacun d'entre nous ici. Et donc, qui est la suite du passage dans Luc 4, de la mission de Jésus qui parle de proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs. Jésus est venu proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs et ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Et donc, je pense que ce matin, la meilleure chose à demander au Seigneur, c'est qu'il puisse ouvrir les yeux de notre cœur, parce que de le connaître, lui, de connaître Jésus, c'est pour ça qu'on veut prendre ce temps-là, ces semaines-là avant Pâques. Parce que connaître Jésus, c'est la vie éternelle. C'est lui qui nous dit, te connaître, c'est la vie éternelle. Et donc, peut-être, il y en a qui se demandent, ou peut-être que vous n'aviez pas remarqué, pourquoi qu'il y a une serviette derrière moi qui n'est peut-être pas très belle. Mais, je ne vous le dis pas tout de suite. Ça va être juste à la fin. Désolé. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, ben peut-être, hein, la preuve, que quelqu'un vous pose une question, mais que dans le fond, il voulait pas vraiment une réponse. Il voulait plus vous poser une colle. C'est comme une question piège pour comme te mettre dans un coin puis avoir te prouver que tu as tort ou pointer du doigt. Et c'est exactement ça qui arrive dans l'histoire ce matin avec Jésus. Lorsque des pharisiens amènent à Jésus une femme qui a été prise en délit d'adultère, qui a été prise en adultère, et là, les pharisiens amènent la femme devant Jésus et ils posent une question piège. Pendant qu'il est en train d'enseigner au temple, en plus, donc je m'imaginais dans ma tête comme quelqu'un débarquer en avant puis dire, cette personne-là a commis tel péché. Pendant que Benoît, Joël parle, puis, ou pendant les chants, puis cette personne-là a péché, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va lire ensemble Jean au chapitre 8, versets 1 à 12. Ils vont être aussi à l'écran, ceux qui veulent suivre. Donc, seul Jésus peut nous délivrer de nous soucis et éclairer notre chemin. Jésus, donc là, il est au temple, il se met à enseigner au verset 3. Donc, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? » Il disait cela afin de lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais, drôle de réaction, Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et jusqu'au dernier, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Moi non plus. Et quelle histoire, hein? Une autre fenêtre ici qu'on a sur le cœur de notre Sauveur. Comme ce que j'ai aimé quand que Benoît avait présenté la vidéo de la femme samaritaine, c'est que ça me rappelait que c'était pas juste des mots, c'est pas juste des histoires, c'est aussi des personnes qui ont vécu et qui ont donc, qui étaient présentes, qui ont vécu, qui étaient avec le Seigneur. Et donc, il nous donne aussi une fenêtre sur comment il devait être, d'être avec lui. Ça devait être tellement merveilleux de voir physiquement. Et un jour, on va le revoir. Et donc, peut-être juste pour mettre un peu de contexte, là, de contexte ici, les pharisiens, c'était qui? Ben, c'était les chefs religieux de l'époque. Les pharisiens, c'était ceux qui dictaient aux gens quoi faire, quoi dire. C'est eux qui disaient qui donnaient tout le cadre même de la religion. Ils enseignaient, en fait, les pharisiens, ils enseignaient que la grâce de Dieu, elle venait. La grâce de Dieu pouvait seulement leur être accordée s'ils pratiquaient toute la loi. Donc seulement en se conformant à la loi, ils pouvaient recevoir la grâce de Dieu. Et donc, ils vivaient une religion extérieure de suivre la loi. Et donc là, ils arrivent avec la femme, ils disent, Moïse, dans les versets précédents, hein, Moïse dit de lapider de telle femme. Et effectivement, c'est ce que Moïse a, la loi de Moïse, la loi a décrit pour les femmes mariées, ou même celles qui étaient trouvées infidèles à leur fiancé. Et si vous voulez le voir, le noter, ce passage-là, c'est dans Deutéronome 22, au chapitre 22, puis versets 23, 24. Si moi, j'aime ça mettre dans la marge de ma Bible, d'écrire ces choses-là, parce que ça me donne le portrait global aussi c'est tout relié, qu'est-ce qui est dans la Bible. Et donc, Deutéronome 22, 23, 24, verset 23, 24, on ne lira pas ce matin, mais ça dit, c'est là le passage qui évoque. Et donc, toi, Jésus, que dis-tu? Curieusement, Jésus répond rien. Il répond rien, il se baisse. En fait, il se baisse puis il se met à écrire avec son doigt, à écrire sur le sol. Et là, pourquoi, peut-être là la question que vous posez, qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire par terre? Il jouait sûrement pas au tic-tac-toe, là. Mais, bon, on le sait pas. On pourrait spéculer plein de choses sur qu'est-ce qu'il était en train d'écrire, que c'était quelque chose qui s'adressait à un, qui s'adressait à l'autre. Il peut avoir des idées comme ça de passage, que comme Jésus écrivait peut-être un passage de la loi sur le sol, mais dans son commentaire, le pasteur et théologien Don Carson, il y a comme des problèmes avec ces spéculations-là parce que ça peut donner des fois plus de crédit au péché de la femme ou en condamnant seulement les pharisiens. Et donc, mais il dit dans son commentaire de s'attarder à qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est écrit clairement. Le reste, ça, on le sait pas, mais ce qui est clair, c'est ce que Jésus leur répond. Et donc, au verset 7. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Les pharisiens, ils ont eu leur réponse, peut-être pas celle qu'ils attendaient, mais une référence encore ici que Jésus répond aux pharisiens en leur faisant aussi une référence, dans le fond, à la loi qui est un peu plus tôt dans le Deutéronome, au chapitre 13, les versets 7 à 12, c'est cependant ce passage-là que les témoins d'un crime, d'un péché, sont appelés à jeter la première pierre contre la personne qui était fautive. La personne qui les amenait, voulait les amener à adorer d'autres dieux. Mais là, ça voulait pas dire, est-ce que Jésus est en train de dire dans le fond que pour appliquer comme ceux qui devaient appliquer la loi, ils devaient être des modèles parfaits de vertu, qui devaient avoir aucune faute, aucun péché, puis jamais avoir commis de mal dans leur vie. C'est pas exactement ça, parce que Jésus savait qu'il y a personne qui est sans péché. Mais ça voulait dire que ceux qui allaient lancer la pierre, en fait, ceux qui allaient lancer la pierre, ils ne pouvaient pas eux-mêmes avoir participé au crime. Parce qu'imaginez de condamner quelqu'un pour quelque chose même que toi t'as fait. Tu ne peux pas lancer une pierre, ça serait ridicule, il faudrait que tu ailles avec la personne aussi. Et donc ici, que Jésus veut venir confronter, c'est que, en fait, du moment où est-ce que tu veux exécuter un jugement sur quelqu'un, mais tu ne dois pas toi non plus te retrouver sur le banc des accusés. On ne sait pas si les pharisiens y ont commis ou non. Peut-être l'adultère, mais si quelqu'un veut appliquer la loi, en fait, que la conscience de chacun soit témoin contre lui-même avant de pointer du doigt à quelqu'un. Parce que ce qui est curieux, je suis pas un expert, mais normalement, quelqu'un qui commet l'adultère, c'est rarement tout seul. Je suis pas un expert, je sais pas, mais c'est rarement tout seul. Fait que là, il est où l'homme dans cette histoire-là? Où est la deuxième personne qui a commis l'adultère? Moi, je la vois pas. Si quelqu'un la voit, levez la main. Et ce qui était le problème que Jésus venait pointer aux pharisiens ici, c'est que les pharisiens avaient un double standard. Ils appliquaient ce qu'ils voulaient dans la loi. Le problème de l'époque, dans cette époque-là, c'est que beaucoup les hommes pouvaient se sortir sans trop de problèmes. Même après avoir commis l'adultère, ils pouvaient continuer leur petit train de vie, ou même si c'était pas une femme mariée, c'était « Ah, ben là, elle était pas mariée, fait que t'as pas vraiment commis l'adultère. » C'était que les hommes, il y a un homme dans cette histoire-là qui est passé sous la justice. Et peut-être qu'il était donc même... je vais continuer. Mais Moïse dit de lapider de telle femme. Mais ce que la loi aussi dit, c'est que les deux personnes, l'homme et la femme, devraient être punis pour leur péché. Et donc le problème ici que Jésus veut soulever, c'était le problème de leur motif. Les motifs dans leur cœur. Ils n'étaient pas tellement intéressés de faire la justice, les pharisiens. Ils n'étaient pas vraiment soucieux d'honorer Dieu, d'honorer la loi. Ils voulaient, comme on l'a vu au verset 6, il lui disait cela pour lui tendre un piège. Et méchant piège ici. Parce que là, d'un côté, si Jésus passe par-dessus le péché de la femme, ben là, c'est comme s'il est en train de se dresser contre la loi. Donc là, une accusation. Bon, vous voyez bien, votre soi-disant Messie, il blasphème contre la loi venue même de Dieu. Il ne peut pas être le Messie. Mais d'un autre côté, si Jésus qui approuve l'exécution, c'est comme c'est vrai, elle a commis ce péché-là, qu'elle soit lapidée, ben ça venait complètement discréditer sa bonne nouvelle, son message de compassion, de grâce pour le pécheur. Ça venait complètement tomber. Son message venait de complètement tomber. Et donc, les pharisiens, finalement, c'est eux qui se sont fait prendre dans leur propre piège. Leur hypocrisie. Et c'est pourquoi, au début de Jean 1, au chapitre 1 puis au verset 17, il dit ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et c'est tout dans ce passage-là qui parle que Jésus est la lumière du monde. C'est pas qu'il n'y avait pas de grâce avant. Dieu a toujours eu de la grâce, sauf que c'est en Jésus qui est venu le montrer. Parce que là, clairement, les pharisiens ne réalisaient pas la grâce que Dieu avait envers eux. Ils cherchaient même à gagner, à mériter la grâce de Dieu. Tu ne peux pas mériter de la grâce. C'est plus de la grâce, sinon, si c'est mérité. Mais Jésus éprouve les cœurs en les confrontant à leur propre péché. Et donc, Jésus aussi éprouve nos cœurs aujourd'hui en nous confrontant à nos propres péchés. Avez-vous remarqué qu'on a tendance, on a tous tendance à voir ce que les autres font de pas correct? Hein? Le petit coin de ménage qui est pas nettoyé comme il aurait dû être nettoyé. qui est pas assez propre, ou c'est peut-être anodin, là, mais de voir ce que les autres font pas correct, de voir qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent pas, ou comme, hey, moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais jamais dit ça. Ça n'a vraiment pas d'allure, en tout cas. Moi, j'aurais jamais, jamais osé faire ça. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes tombé dans le piège de penser à quelqu'un dans votre cœur. Quand je lisais ça puis je me préparais, je voyais juste comme, aïe, j'ai tellement besoin du Seigneur dans ma vie. C'est tellement facile à pointer ce que les autres font pas correct autour de moi. Tandis que le Seigneur, il veut que je voie les propres péchés qui sont dans mon cœur, premièrement. Et dans le livre, Doué Humble, l'auteur, il disait à une place que c'est en fait notre esprit légaliste nous aveugle. On ne voit pas à quel point c'est naturel pour nous de fonctionner par les œuvres, de se justifier devant Dieu, de montrer que nous, on l'a l'affaire. Mais communiquons. Soyons une église qui communique la grâce autour de nous. Soyons une église qui communique la grâce au lieu et non pas le jugement. Et que le Seigneur il nous ouvre sur nos propres péchés. Faut se repentir de ça. Faut se repentir de ça, mes amis. C'est ça qui rend notre cœur dur. Dur, aveugle. On cherche à paraître meilleur. On cherche à avoir l'approbation. C'est une lutte constante à dire, ah, là, il faut que je me tienne, il faut que je dise les bonnes affaires, il faut que je fasse les bonnes affaires, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Mais non, c'est pas ça l'Évangile. Jésus est venu nous délivrer, proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs. À ceux dont le cœur est prisonnier. Et il éprouve. Donc Jésus, il veut éprouver nos cœurs ce matin. Mais non, pas pour nous condamner. Est-ce que c'est un petit peu, justement, pas hautain, mais arrogant de dire, Jésus, il va leur mettre dans leur... Est-ce que Jésus voulait faire ça? Il va leur mettre dans leur face qu'ils font pas correct pour les condamner? Même pas. Notre Sauveur est doux et humble. Il fait pas pour les condamner. C'est une grâce qu'il leur fait. C'est une grâce qu'il nous fait. Parce que du moment où est-ce qu'on voit nos péchés, ben là, on voit notre besoin de grâce. Et donc, Jésus veut qu'on voit nos péchés dans nos cœurs pour qu'on prenne pour, en fait, parce qu'il veut nous offrir sa grâce. Mais si notre cœur est fermé à lui, on ne peut pas la recevoir. Bien qu'il nous l'offre, il nous la donne. Et donc là, Jésus éprouve les cœurs des pharisiens. Et là, regardez au verset 9. Qu'est-ce qui se passe? Oups! Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Et donc, une fois resté seul avec la femme, Jésus pose cette question. Où sont ceux qui t'accusaient? Il n'y a personne qui t'a condamné? Qui vient juste de te condamner? Eh bien, non. Personne. Il n'y a personne. Tout le monde est parti. Et même, donc, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Et donc, ça, c'est la première. Jésus éprouve nos cœurs en nous confrontant à nos propres péchés. Et la femme adultère était très confrontée. Pas juste intérieurement, mais au milieu de toute l'assemblée, face à un péché qu'elle a fait. Mais, qu'est-ce que était la réaction de la femme? Ben, en tout cas, dans les chapitres, la femme n'est pas en train d'essayer de se justifier, de justifier le péché qu'elle a commis, ou même de s'en excuser. Elle se tourne vers Jésus pour prendre sa défense. Parce qu'en fait, quand on se tourne vers Jésus pour prendre notre défense, il n'y a personne qui peut nous condamner. Quand on se tourne vers lui pour prendre notre défense, il n'y a personne qui peut nous condamner. C'est comme si Jésus était notre avocat. Puis j'ai aimé aussi quand Jocelyn a parlé il y a 2 semaines sur notre dossier, que Jésus a pris notre dossier criminel, toutes nos fautes. Et donc là, il a pris beaucoup plus gros que ça. Et il a pris sur lui pour que nous, on ne soit plus condamnés, qu'il n'y ait plus d'accusations sur nous, pour qu'on soit pardonnés. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye, il fallait que quelqu'un le prenne. Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas de meilleur défenseur que Jésus. Premièrement, bien, c'est le seul qui est juste. On voit les pharisiens n'avaient pas leur cœur n'était pas juste. Mais Jésus, lui, son cœur était juste. Il est juste. Et donc, c'est le meilleur défenseur. Parce qu'on le sait qu'il va toujours, toujours intervenir en notre faveur si on veut qu'il intervienne pour nous, évidemment. Et j'étais curieux de voir un petit peu c'est quoi la définition d'un avocat, mais de voir, OK, dans le fond, dans notre monde, un avocat, c'est quelqu'un qui conseille, qui vient représenter, qui vient assister et défendre. J'avais vu la définition sur Google, mais je ne la mettrai pas. Jésus, oui, il vient nous défendre, mais il vient aussi nous conseiller. Il nous représente devant Dieu. Jésus nous représente comme il a représenté cette femme. Il nous représente devant Dieu. Il vient nous assister. Il vient à notre défense. On n'a pas besoin de se prouver, pas besoin de se justifier, de faire notre défense. Jésus est notre avocat. Mais il n'est pas seulement un avocat qui prend un chèque de paye. Il intercède pour nous parce qu'il est aussi notre ami. Et quand on se trouve sur le banc des accusés, bien, si vous vous trouvez ce matin sur le banc des accusés, bien, venez me voir, venez voir quelqu'un. Je suis sûr qu'on connaît un très bon avocat qui va pouvoir défendre votre cause. C'est grâce à Jésus sur la croix, sa mort, qui nous fait qu'on est non coupable. On est non coupable ce matin. Et ça l'a coûté cher. Et voilà son cœur. son cœur, il est écrit plus tôt dans Jean, comme probablement que je ne suis pas tout seul, qui ne sait pas c'est quoi qui se trouve après Jean 3,16. Mais ce qui se trouve après Jean 3,16, c'est Jésus dit, ou Jean écrit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jésus n'est pas venu condamner. On a des fois tellement de fausses images que on se tient tout serré, puis c'est comme dans la peur de se dire quelle prochaine niaiserie que je vais faire, puis que comme ah Dieu il va me pointer du doigt, puis voilà, comme d'être accusé, d'être voilà, je t'ai pris au piège, tu mérites pas ma grâce. Non. Non. Qui accusera les élus de Dieu? Paul écrit dans Romains. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes son enfant. Il n'y a aucune condamnation qui repose sur vous. Peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe qu'est-ce que même l'ennemi et Satan veulent vous accuser pour un péché commis, il n'y a plus aucune condamnation. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est juste envers. Non, c'est ce qu'il est. Et ça, c'est dans son épître, pas dans l'Évangile, mais Jean qui écrit ça dans son épître. Et donc, dans son livre aussi encore, Dane Ortlund ajoute comme que parfois, nous commettons de graves péchés. Pas qu'il y en a qui sont plus graves que d'autres, mais que le péché est grave et nous avons besoin d'un défenseur auprès du Père. Il se porte à notre défense. À la défense de votre cause, sur le bien fondé de ses souffrances et de sa mort, son cœur bienveillant ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il n'a pas abandonné la femme à elle-même quand elle était là, elle n'avait besoin. Mais, comme être humain, dans notre orgueil, on veut pas vraiment quelqu'un qui... On veut pas tant, des fois, que quelqu'un vienne à notre défense. Comme, on aime ça s'arranger tout seul. Même juste demander de l'aide pour quelque chose, des fois on se sent mal. C'est comme, non, je suis correct, je vais m'arranger, inquiète-toi pas, tout va bien aller. C'est comme, non, on veut, parce que, on veut pas montrer qu'on a des besoins. Hein? Oh là là! Mais on est enclin à le défendre nous-mêmes. Mais, aussi, une autre chose que Jocelyn avait dite, c'était qu'il n'y a pas de plus grande pauvreté que de se présenter devant l'éternité sans défense, sans avocat. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que ça. Parce qu'un jour, on va tous passer devant le tribunal, au jugement dernier, un jour. Mais qui sera à votre défense au jugement dernier? Je connais un très bon avocat. Je ne lirai pas la citation ici, mais c'est tout le chapitre 9, je pense, dans le chapitre 9, qui parle de peut-être ceux qui sont rendus en ce moment, Jésus comme notre avocat. Vous allez pouvoir avoir ça. Vous allez pouvoir. J'ai juste enjoyé dans ma tête, mais apprécié la lecture, savouré. Mais donc, Jésus éprouve nos cœurs en nous confrontant à nos propres péchés. Mais parce qu'il veut, qu'on s'ouvre, il veut les ouvrir. En fait, il veut les briser pour laisser sa grâce entrer. Et on n'a pas à avoir peur parce que en Jésus, on peut avoir un défenseur qu'on sait qu'il est juste. Il ne va pas chercher à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous accuser. mais il va être toujours là pour nous relever. Et là, vers la fin de ce passage-là, Jésus dit une déclaration incroyable. Est-ce que je l'ai mis? Oui. Juste après, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Celui qui reconnaît que Jésus est la lumière du monde ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Celui qui reconnaît Jésus comme la véritable, c'est pas « je suis une lumière dans le monde », il est la lumière dans le monde. Et donc, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il ne peut pas même penser faire du mal dans son cœur. Mais qu'est-ce que ça fait, la lumière? Ça l'éclaire, la lumière. La lumière, ça l'éclaire. Si il n'y avait pas de lumière, on ne saurait pas qu'elle n'existe pas. Parce qu'on serait tous aveugles. Et on ne pourrait pas savoir qu'on est aveugle. On ne peut pas savoir qu'il fait noir s'il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais la lumière vient montrer qu'il y a de la noirceur. Sans lumière, il n'y a pas de noirceur. Mais tout est noirceur. La lumière vient rendre témoignage qu'on est dans la noirceur. Sauf si on se tient dans la lumière. Et c'est là, celui qui se tient dans la lumière, ne marchera pas dans les ténèbres. Et c'était sa mission. Et je ne sais pas si je l'ai mis, mais... Non, je ne l'ai pas mis. La lumière nous donne la vie. Il nous le dit dans Jean. Je vais mettre les références plus tard. Mais... Au chapitre 12, je trouve que c'est tellement intéressant de voir comme tout le discours, on est comme dans le chapitre 8, mais au chapitre 12, Jésus dit, « Moi, la lumière du monde, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Jean 12, 46. « Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, c'est pas moi qui le juge. » C'est là que je veux aussi comme... y revenir. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son propre juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Mais c'est pas Jésus qui vient juger. Il a même confronté les pharisiens avec ça. Au chapitre 5 dans Jean, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant le Père. C'est Moïse qui vous accuse, en qui vous avez mis votre espérance. C'est votre propre ils ont été accusés par leur propre conscience. Jésus n'a pas dit vous êtes des hypocrites, bien que ils ont reconfronté, mais ils voulaient les gagner. Et donc, quelle différence ça fait de marcher avec Jésus dans sa lumière? Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. La lumière nous donne la vie. Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde et elle est la vie. En chapitre 1, 4 et 12. Puis marcher dans la lumière nous rend libres. Donc j'arrive, il y avait comme deux idées qui étaient à rejoindre. Proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs et ouvrir les yeux des aveugles. Mais c'était des aveugles pas physiquement. Oui, il a guéri les aveugles physiquement pour le guérir, pour montrer que c'était bien lui le Messie, mais il voulait montrer que c'était nos cœurs qui étaient aveugles, en fait. Et ça peut-être, va peut-être l'air, avoir l'air drôle comme ça, là, mais ce qui est arrivé à la femme adultère, le fait qu'elle s'est fait prendre ce jour-là, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver de sa vie. De s'être fait prendre dans son délit. Parce que son péché était dévoilé. Elle n'avait plus rien à cacher. Bien qu'elle aurait pu le nier. Mais parce que son péché était dévoilé, elle a pu trouver aussi la grâce puis du pardon. Parce que là, elle était, son cœur était exposé. Les pharisiens, eux, auraient pu aussi reconnaître leur péché, leur hypocrisie, leur fait qu'ils appliquaient pas. Ils appliquaient les choses qui faisaient leur affaire. Mais, accusés par leur conscience, ils sont partis. Jésus était là. Il se tenait avec la femme. Il était là avec elle. La femme aurait pu partir aussi, accusée par sa conscience. Et non. Elle s'est tournée vers Jésus. Vers la lumière du monde. Son tête, la femme est partie libre. Pardonnée. Mais les pharisiens, non. Ils ont peut-être laissé tomber leurs pierres, un après l'autre, leurs pierres à terre, mais sans se rendre compte que la véritable pierre se trouvait dans leur propre cœur. Et chacun d'entre nous, le véritable combat se passe dans notre cœur. Et pourquoi que la vérité et la lumière rendent libre? Mais parce que dans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Dans la lumière, on peut rien cacher. On n'a rien à cacher dans la lumière. Il disait qu'en fait, la lumière est venue dans le monde, mais est venue parmi les siens, mais ils ne l'ont pas accueillie parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré leurs œuvres mauvaises à la vérité. Et il y a des fois, peut-être aussi dans nos propres cœurs, des coins plus sombres que d'autres. Quelque chose que peut-être, même ce matin, espérer qu'il ne soit pas mis en lumière devant tout le monde. Peut-être justement un coin sombre qui est adultère aussi envers Dieu, spirituellement. Un secret, des convoitises intérieures, être sûr de tout effacer les traces qu'il pourrait avoir de pornographie sur mon ordinateur, de tout effacer, être sûr de garder le secret, de jalouser dans le cœur peut-être la vie de quelqu'un d'autre. Ah, si moi j'avais sa vie, il me semble que ça serait tellement, tellement mieux. Une haine pour quelqu'un. Un excès de colère. Intérieur, extérieur. Puis peut-être que vous êtes dans la crainte que ça soit aussi dévoilé au grand jour. Et moi aussi, ça a été le cas. Longtemps. Mais je peux vous dire, que le péché soit dévoilé, c'est la meilleure chose. Parce que c'est à ce moment-là c'est en ce moment-là que notre cœur est brisé devant le mal qui est à l'intérieur de notre cœur. C'est à ce moment-là qu'on peut recevoir la grâce aussi. Et donc, il est notre avocat. Il veut pas vous condamner ce matin, mais vous sauver. Il veut nous sauver. Et donc, peu importe qu'est-ce qu'on peut faire, on peut trouver le pardon. Mais le temps est compté. Nos jours sont comptés. Mais Jésus a un cœur qui est juste, entièrement juste. C'est pour ça que c'est prendre notre défense aussi. On n'a pas à rester dans notre honte, qui est normale, de commettre un péché et sans ressentir la honte. Ça serait anormal de ne pas en ressentir, mais c'est la culpabilité qui vient faire la différence. On a vu tantôt, il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on peut trouver le pardon. Si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père. Et l'ennemi, parce que l'ennemi, il aime ça, lui, quand on entretient un petit coin sombre dans notre cœur. Satan aime ça, qu'il y ait quelque chose d'un secret caché. Parce que c'est là qu'il garde un mensonge, un coin sombre, qui n'est pas dans la lumière, qui est secret. Il sait. Il sait que ça vient détruire, ça vient nous renfermer. Mais ce matin, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, selon leur propre désir, mais selon l'Esprit. Et donc, maintenant j'en viens à ma drôle de serviette, si vous l'aviez oubliée. Pour terminer, qu'est-ce que j'ai de caché sous la serviette? Roulement de tambour. C'est tout simplement le cœur lumineux de Christ. La lumière, le cœur tendre. Et ça, j'ai aimé beaucoup l'illustration que j'ai pris justement de Monsieur Dane Ortland. Le tendre cœur, il dit, le tendre cœur du Fils de Dieu brille sur moi. C'est une affection inébranlable qui ne peut changer. Peu importe comme ce qu'on voudra mettre par-dessus, peu importe qu'on voudra, c'est sûr que là, imaginez que elle marche pas à l'électricité, là, mais elle a une source infinie, elle peut jamais s'éteindre. Peu importe qu'on met dessus, peu importe l'affection du cœur de Jésus brille sur moi. Mais des fois, ça, on l'oublie. C'est comme dans un coin, il y a une serviette par-dessus, on oublie l'amour du Seigneur pour nous. Et à ce moment-là, on essaie de le chercher partout ailleurs. Peut-être comme la femme, chez un autre homme, ou les pharisiens, dans le regard des gens, on devient le cœur. Quand notre cœur ne demeure pas dans son amour, il devient agité, anxieux, il cherche, il est instable, insécure, parce que Jésus nous invite à demeurer dans son amour. C'est là qu'on est le mieux, qu'on est le bien. Il dit, quand on choisit de pécher, c'est comme on rejette l'identité que Dieu nous donne, d'enfant de Dieu. Et ça, c'est ça que l'ennemi aime, nous dire, ah, finalement, t'es peut-être pas un enfant de Dieu, hein. Regarde qu'est-ce que tu fais. Un enfant de Dieu ferait pas ça. Mais ce matin, ne partez pas sans avoir laissé vos péchés à Christ. L'éclairer. Dans son intégralité, le Nouveau Testament enseigne que c'est le soleil du cœur de Christ et non les nuages de nos péchés qui nous définissent maintenant. Et la lumière, bien que je la couvre, est encore là. Mais c'est peut-être pas un nuage qui couvre, qui nous empêche. Des fois, les nuages nous empêchent de voir le soleil, mais le soleil est là, peu importe. Mais sauf si notre cœur, si on a un cœur de pierre, ça dit que notre cœur est voilé. Il y a un voile, il ne peut pas voir l'amour de Dieu. Et c'est ça, Jésus confronté à nos péchés pour qu'on puisse voir son amour. Donc, Dieu est gracieux. Il n'y a rien qui puisse changer son affection pour moi. Dieu est gracieux, il n'y a rien qui peut changer son affection pour vous ce matin. Il n'y a rien que vous pouvez faire qui va faire que Dieu va vous aimer plus. Mais donc, je voulais simplement vous encourager ce matin à rester près du Seigneur, dans sa lumière, de le chercher quotidiennement, de voir, Seigneur, montre-moi les raccoins cachés, peut-être dans mon cœur, je veux être complètement à toi. Merci d'être pour moi un défenseur. J'ai pas rien à prouver dans toi. J'ai essayé de le faire, puis je me suis planté royalement. Mais viens, Seigneur, éclairer mon cœur. Et venir me changer, me rendre de plus en plus semblable à toi. Pas avoir honte. On a un défenseur devant le trône qui intercède pour nous. J'aime beaucoup ce chant-là qui dit « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé, cet avocat s'appelle Amour. » Et donc, cherchons, laissons toute la place au Seigneur dans nos cœurs. Cherchons-le en sachant qu'il est là pour défendre notre cause, pas pour nous accuser, nous condamner. Et aussi, les uns avec les autres. Ne soyons pas condamnateurs les uns envers les autres, mais communiquons-nous de la grâce. Parce qu'on en a tous et chacun besoin, et Dieu le sait. Donc, on va prier. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui nous éclaire. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à toi, de ne pas nous rendre insensibles, justement. Tu vois nos cœurs, des fois, comment ils peuvent être tellement durs. Mais envers nous-mêmes, envers les autres. Mais Seigneur, peut-être ce matin, on veut te confesser que on a parfois des affections dans nos cœurs à certains péchés. Mais merci pour ton amour qui est en fait le seul qui peut satisfaire et qui nous accueille peu importe la gravité. Et merci, Seigneur, en fait, que ta défense pour nous parle plus fort que nos offenses. Ta défense pour nous parle plus fort devant Dieu. Et donc, on veut te demander pardon encore, mais en sachant que tu es là, tu te tiens au milieu de nous, et peu importe, peut-être que c'est des gens qui disent des choses sur nous, que ce soit des vraies accusations ou des fausses accusations, on n'a pas à se culpabiliser aujourd'hui grâce à toi, Alors, on veut t'en louer, t'en remercier encore et merci de nous soutenir. Aide-nous à marcher dans ta lumière, là où il y a la vie, la vérité et les uns avec les autres aussi. Merci de ce temps ce matin. Et viens régner sur nous. Je t'en prie, dans le nom précieux de ton Fils. Amen.